Oui, merci pour votre communication. En fait, j'ai une question. Je ne trouve pas une réponse. Pour ça, il faut réfléchir parce que je travaille pendant 20 ans sur le WACF, même Randy travaille pendant 50 ans sur le WACF. Mais peut-être qu'on va réfléchir ensemble. En théorie, il n'y a pas de, il y a toute la égalité entre selon tous les madhhab vis-à-vis le waqf et la ahkam al-awqaf. Aucune différence entre les hommes et les femmes selon tous les madhhab en théorique, théoriquement. Mais en pratique, il y a des distinctions entre les femmes et les hommes dans la création du waqf, dans le shurut, le fondateur. Fondateur ou fondatrice, il faut faire distinction. Comme ils ont mis les bénéficiaires des hommes, ce n'est pas la même bénéficiaire des femmes. Ma question est pourquoi les correspondances acceptaient cette distinction malgré tous les rites, donner toute la légalité entre les deux. Par exemple, si un fondateur waqf allait au tribunal pour fonder un waqf, il a mis dans la condition des bénéficiaires, il a nommé son fils, les fils et les filles non. Pourquoi le juge accepte ça? Malgré ça, il a distinction. Si ce n'est pas logique, normalement, il y a des égalités. Mais à l'intérieur, quand ils ont fondé un waqf, il y a des distinctions. Le juge accepte ça et accorde ça. C'est ça la question.
Bon, moi, je voudrais juste poser une question sur le waqf, dont je ne connais pas grand-chose, je viens d'apprendre. Est-ce que ça a à voir avec l'évergétisme? Hein? Et quels sont ces points communs avec la charité, la fameuse charité dans le monde musulman? Est-ce qu'il y en aurait des points communs?
Qu'est-ce que tu as dit au début?
Évergétisme, c'est la coutume en Grèce ancienne. Bon, c'est en Grèce ancienne, c'est une sorte de taxation des plus riches. Mais en faisant des œuvres qui sont pour le bien public. Donc il y avait avec une reconnaissance, c'était l'honneur qui s'ajoutait. Et c'était pas anonyme, bien sûr. C'était leur nom qui trônait.
Le mot, c'est
évergétisme.
J'essaie toujours de comprendre en fait des cultures qui sont pas la mienne à partir de mon propre prisme en fait, c'est-à-dire l'Occident. Donc là, il y a des choses où vous dites qu'il y a une égalité possible du point de vue de la propriété, de la gestion économique entre hommes et femmes. Si je prends tout simplement, si je pars à l'héritage aristotélicien, hein, c'est-à-dire et qui va après couvrir tout l'Occident, c'est-à-dire une distinction dans la légitimité des hommes et des femmes du point de vue du gouvernement de la maison, et donc de la propriété des terres, ça a quand même historiquement une répercussion sur le politique. C'est-à-dire que dans la pensée occidentale, on fait un lien entre la responsabilité économique des femmes et puis une légitimation à des fonctions de responsabilité en politique. Alors, si je vous ai suivi, il y a une reconnaissance d'une responsabilité possible des femmes et d'une propriété de la femme du point de vue économique. On a dans la tradition aristotélicienne une justification de l'éradication des femmes de la sphère politique à cause d'un manque de prudence, d'un rapport plus étroit au désir, etc., d'une rationalité insuffisante. Je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Enfin, disons, quel lien on peut faire du côté de l'Orient entre l'économique et le politique? Pourquoi, s'il y a une légitimation des femmes du côté de la gestion politique, du gouvernement de la maison ou des affaires. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça donne du point de vue politique ? Est-ce que ça sous-entend qu'il y a une responsabilité politique qui est quand même autorisée ? Et sinon, qu'est-ce qui justifie philosophiquement l'éradication des femmes du gouvernement politique, en fait ?
Une question pour Madame Randi. Donc, est-ce que vous avez trouvé dans votre document à Damas l'exclusion de la femme dans les madhab hanafites? Parce que moi, en Tunisie, j'ai trouvé, donc j'ai fait une statistique, j'ai trouvé 70% sont la femme, elle est exclue de droit de l'héritage. Par rapport à Damas, parce que moi je ne connais pas, donc.
Oui. C'est pas
oui, dans les bénéficiaires. Oui. Excuse-moi, les bénéficiaires.
Je voulais juste vous donner une petite référence là, à propos de. J'avais cité un article qui s'appelle The Gift of Law, Greek Ergetism and Ottoman Wealth. Donc un article qui a été publié, qui compare les deux.
Je réponds, Fatia.
Encore une petite question, excuse-moi, Randi. Pour Monsieur Nayestani, à propos de le Bouxa Favid, mais c'est un petit peu dans la continuité de la question précédente. Comment ? Oui, Azadeh Kian. Je suis professeure de sociologie Paris Diderot et spécialiste de l'Iran. Et voilà, donc pour. Entre autres, hein, et genre. Et donc, la question que je voudrais vous poser, Monsieur Nayestani, puisque je connais un petit peu l'époque safavide, même si je ne suis pas historienne. Effectivement, cette époque est très importante parce que les femmes safavides avaient aussi beaucoup, enfin, de la cour royale et de l'aristocratie, comme vous le savez, avaient beaucoup de pouvoir politique. Il y en a qui, Khan Khanoum par exemple, et d'autres, hein, qui participaient directement à la prise de décisions politiques et militaires. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir économique des femmes, y compris le warf, était lié, me semble-t-il, directement à d'autres pouvoirs qu'elles exerçaient. Et qui, alors, selon un certain nombre d'historiens et d'historiennes, seraient en rapport avec le caractère tribal de l'Empire safavide, en tout cas jusqu'à une certaine période. Voilà, donc, c'est pas un rien. Et si les femmes avaient ce pouvoir économique, femmes aristocrates, c'est aussi parce qu'en même temps, ils avaient d'autres types de pouvoir. Et que finalement, petit à petit, elles ont commencé à le perdre, mais on sait aussi pourquoi. C'est-à-dire que tout ça, me semble-t-il, être très en rapport avec les rapports de pouvoir qui se sont établis, en fait, au sein de différentes sociétés. Moi aussi, par exemple, pour Randi, moi, je ne suis pas historienne encore, mais je lis quand même les travaux des historiennes et historiens, quand même, à l'époque ottomane, etc., les femmes allaient voir le juge seules, toutes seules, pour obtenir leurs droits, comme ça a été dit et redit par beaucoup d'historiens et historiennes. Donc, voilà. Et moi, ma question est pourquoi, alors, après, il s'est passé des choses, et on le sait, parce que justement, ce que dit madame, c'est-à-dire que selon les règles en vigueur en Europe, où les femmes n'avaient pas, après le mariage, le droit à la propriété, c'est-à-dire perdre leurs droits, eh bien, copié. L'exemple de Mohamed Ali en Égypte le montre très bien. Par exemple, sur les sociétés moyen-orientales, et donc, du coup, les femmes, avec la modernité, ont commencé à perdre leur pouvoir économique en même temps. Voilà. Est-ce que tu seras d'accord ou pas ? Merci.
Excusez-moi, ça a été... Oui. Exactement ce qu'on a dit ce matin.
Je commence par la dernière remarque, tout à fait, oui, bien sûr. Et il y a des documents où on entend la voix des documents ottomans du 18e, 17e, 18e, 19e siècle. On entend la voix de la femme. Encore une fois, bon, il peut y avoir aussi une modification dans l'écriture, dans la rédaction du document, changer quelques mots. Mais il est absolument clair que les femmes sont là, pas seulement à l'époque de Tanzimat, où les femmes vont fortement revendiquer leurs droits. On le voit déjà bien avant ça. Bon, les travaux de Leslie Pierce, ça c'est souvent cité, mais ce n'est pas le seul. Je vais citer le travail d'une Tunisienne qui s'appelle Imen Benjamia, et elle avait soutenu sa thèse il y a une dizaine d'années à Aix. Et elle avait travaillé sur, ça s'appelle, la condition de la femme à Hama, donc une petite ville syrienne, au 18e siècle. Et là, il y avait la voix de la femme, il y avait beaucoup d'exemples. La femme qui vient, mais les femmes qui ne sont pas des urbaines, mais des femmes, des bédouines, des femmes qui habitent dans les petits villages, elles viennent, c'est pas rien, hein, elles viennent au tribunal et elles revendiquent soit leurs droits à l'héritage, si elles estiment qu'elles étaient privées de l'héritage, ou bien pour demander un divorce, ça c'est souvent, mais on le voit fréquemment. Et elle avait mis tout cela pour cette vie-là en évidence. Et donc là, il n'y a aucun problème. Parfois, c'est surtout des femmes d'un certain niveau qui se font représenter dans les tribunaux. N'empêche qu'elles peuvent aussi venir. Ou bien le tribunal se déplace, ou le personnel du tribunal se déplace chez elles. C'était le cas du dernier Wakf que j'ai cité, Al-Murali. C'était dans son dar que le juge et le scribe, ils se sont déplacés chez elle. Mais ce n'est pas seulement parce que c'était une femme. On a le même cas pour les hommes. Les gens d'un certain niveau, c'est ça. Ce n'est pas la peine qu'eux, ils vont traverser la ville et les autres viennent chez eux. Donc c'est pour ça que ce matin, on a parlé de l'importance non seulement du genre comme quoi, comme quelque chose isolé, mais vraiment de le placer dans intersectoriel, vraiment de le placer dans son espace socio-économique. Oui. Ça, c'est vraiment très, très important.
Je me permets aussi, je rajoute pour la réponse après. C'est fini?
Non. Alors, pas tout à fait. Après, je voulais juste dire quelque chose sur la remarque de Moussa. Oui. Ça fait pas 50 ans que je travaille sur le WAF. Tout. Hein, je ne suis pas si vieille que ça. Donc, déjà, j'ai ça. Je me protège. Hein. Et pourquoi le juge accepte... Oui, c'est une vraie question, absolument. Pourquoi le juge accepte, par exemple, qu'un WAF soit établi en faveur exclusive aux descendants masculins d'un fondateur? Bon, je peux dire que nous avons plusieurs WAF aussi où les fondatrices avaient créé des WAC que pour leurs filles. Ça, ça existe aussi. C'est ça. Parce que moi, je ne suis pas dans leur tête, donc je ne sais pas quelle était, mais on peut quand même extrapoler, on peut quand même... Wow. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, que bon, a priori, on ne peut créer un WAC qu'avec un tiers, comme tu le sais, avec un tiers de ses propriétés, donc les deux tiers sont... de la propriété, par la suite, le testament, les règles de l'héritage, c'est absolument réglementé. Mais ainsi, c'est ça la chose qui je trouve toujours fascinante, que c'est la décision, le pouvoir décisionnel. Le pouvoir décisionnel de l'individu, femme ou homme, qui créait la fondation, qui créait le WAC. Moi, je veux dire qu'on voit les priorités de cette personne, on voit la priorité de l'individu avec tous les caveats qu'on peut le mettre à côté parce qu'aucun acte n'est isolé. Il y a soit pression de la société, pas pression, influence de la société, pourquoi on créait un waqf en faveur de cette mosquée et pas une autre mosquée, pourquoi on donne aux filles et pas aux garçons, pourquoi. Bon, ça, on n'en sait rien. Sauf s'il y a, par miracle, une autobiographie à côté. Bon, c'est très rarement le cas, en tout cas. Mais on peut le dire aussi que c'est un récit de soi. Une waqfia ou une charte de fondation, c'est quelque part aussi, c'est chargé d'émotions. C'est un récit de soi. On voit quelque part les priorités de l'individu qui établit le waqf, parce que c'est une décision, même si on peut revenir, si je ne dis pas des bêtises, dans le Madhhab Malikite, on peut revenir. On peut le dire, je fais ça que pour une période temporaire, 30 ans, 20 ans, 15 ans. Alors que chez les Hanafites, c'est une fois pour toutes. On crée un waqf, c'est une fois pour toutes. Même si on sait que la propriété y a transité par d'autres fonds, même si on sait qu'on peut intervenir, changer un bénéficiaire, c'est pas qu'on peut, mais on l'a fait, mais c'est rare. Et c'est une feuille de route à titre permanent. Le plus permanent que l'être humain peut être, mais à titre permanent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réflexions qui vont dans un document. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas louer une maison et puis 3 ans plus tard, on le reprend. Non, c'est vraiment une décision réfléchie, faite une fois pour toutes. Donc, pourquoi le juge... il me semble, maintenant, chacun de son avis, mais une fois qu'on passe devant le tribunal pour entériner une fondation, ça t'est déjà réfléchi, ça t'est déjà construit, et le juge, en fait, il ne fait rien que tamponner la chose, que donner son avis. On n'a jamais vu, enfin, j'ai jamais vu, en tout cas, une référence quelque part, pas dans un waqfir, mais j'ai jamais vu que, non, le juge ne le permette pas. Peut-être ça existe, mais je ne l'ai jamais vu. Par contre, c'est intéressant parce que, au moins dans le rite hanafite, presque toujours, au moins au 19e siècle, on s'auto-protège, le fondateur, fondatrice dit à chaque fois, oui, il y a eu une objection, il y a eu une objection à cette création de waqf. On a répondu à cette, mais c'est formulaïque, on a répondu à cette objection en montrant la validité de cette fondation, et maintenant, c'est fait, une fois pour toutes. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans le temps, on ne sait pas quand, mais dans le temps, il y avait quelque chose comme quoi il y a eu des revendications, et maintenant, c'est dans le formulaire. Simplement, c'est dans le formulaire, parce que c'était en fait des formulaires, on remplissait un peu comme ça. Et c'est dans le formulaire, oui, il y a eu une objection, j'ai défendu ce que j'ai, je suis revenue à la charge, j'ai défendu ce que j'ai créé ici dans ce waqf, et c'est valide, ça a été validé. Voilà.
Alors, concernant la question de Madame Kion, en fait, les waqf créés par les femmes à l'époque safavide, c'était pas seulement par les femmes de la famille royale. On a des différents cas. Par exemple, je vous donne l'exemple de Heshmatun Nessa Khanom, fille de Mirza Mohammad Reza, qu'elle n'appartient pas à la famille royale. Elle a mis sous le waqf. En fait, waqf en faveur des écoles. Comme l'école avait besoin de beaucoup de dépenses, normalement, ce sont des femmes riches de la famille royale ou les femmes riches qu'elles n'appartiennent pas. Mais les autres, par exemple, waqf, on trouve des documents de waqf, charte de waqf, par exemple, pour citation du Coran. Par exemple, cette dame, le waqf numéro 40, Heshmatun Nessa Khanom, elle a mis sous le waqf 2 parts de la totalité de 72 parts du village de Afjedol Najon. Après, il avait aussi 4 boutiques. Elle a mis sous le waqf, d'une part pour citation du Coran, d'autre part pour sa fille, Paris Rossor. C'est un cas qu'on peut donner une fondatrice a fait le waqf en faveur de sa fille. Paris Rouxor, et donc on trouve aussi les nécessitaux.
elle dépend exactement de capacités économiques de la fondatrice. Des fois, parfois, on trouve une maison. Elle a mis une maison pour l'éclairage et parfumer des lieux saints, pour aider les nécessiteux. Donc, des femmes, bien sûr, à l'époque safavide, on trouve des femmes qui avaient des pouvoirs politiques, comme la mère, grand-mère du roi. Ils faisaient tout ce qu'elles voulaient dans le domaine de l'économie politique. Mais on trouve aussi des autres femmes qui faisaient des varfs correspondant ou selon leurs capacités économiques, par exemple pour les nécessiteux, les lieux saints, etc. Et pour répondre à la question de madame, je ne sais pas, votre question concerne l'islam, pourquoi en islam, le cas spécifique de Warf est beaucoup différent avec l'héritage et l'autre cas dans la jurisprudence islamique. Vous savez, dans le Warf, tout est à la main de fondateur et fondatrice, c'est-à-dire fondateur pour désigner les filles, les garçons égaux qui bénéficient de Warf, mais la loi de l'héritage, c'est autre chose. C'est-à-dire, dans sa vie, si elle met quelque chose sous le Warf, c'est elle qu'elle désigne, par exemple, elle peut même priver ses fils de profiter du Warf. C'est fondateur ou fondatrice qu'il décide ou elle décide comment et qui va bénéficier à quel pourcentage. Par exemple, les filles plus que les garçons ou pas, c'est exactement selon la décision et la charte du Warf qui l'écrit. Mais en dehors du Warf, si on vient vers le droit de l'héritage, ou par exemple, prix du sang. Pour les femmes, c'est moitié des hommes. L'héritage des femmes est moitié des hommes. Ça, il y a d'autres sagesses. Pourquoi cela? Parce que, bon, des fois, les savants... Voilà. On va continuer dans la table ronde. Oui, vous avez raison. Et en fait, pour répondre à la question madame qu'elle a dit, bon, je ne connais pas exactement ce que vous avez dit. Il y a une... comment dirais-je? Elle ressemble ce que vous avez dit. Oui, voilà, ressemble au Warf ou pas, mais vraiment, la fondation Warf en islam, bon, comme on avait aussi des colloques, on a présenté qu'il existait aussi chez les chrétiens, chez les juifs, même à Isfahan, dans ma ville natale, j'ai travaillé sur les 24 synagogues fondées sous le Warf à Isfahan, en Iran, donc c'est un phénomène, une fondation qui existait avant l'islam même, chez les autres religions comme chrétiens, juifs, et après en islam, l'islam a confirmé cet acte. Bien sûr, a mis des conditions, des détails pour les fondateurs, fondatrices, bien sous le Warf, tout. Il a encadré, c'est-à-dire la jurisprudence islamique a bien encadré le Warf en islam, qui est un petit peu différent avec ce qui existe dans les autres religions. Et peut-être on peut trouver dans la loi, par exemple, étatique des pays européens, on dit ici, on a endowment ou trust, ou je ne sais pas, il y a des autres formes qui ressemblent au Warf. C'est bien, moi, je n'ai pas vu un travail comparatif qui compare entre les différents modes ou fondations qui existent, par exemple, dans les pays européens et en islam, et aussi dans les différents rites, par exemple, chez les chiites, il y a une condition qui n'existe pas chez les sunnites pour mise en possession du bien en Warf. C'est-à-dire, si moi, je crée un Warf, mais avant de donner en possession au bénéficiaire, je meurs, mes enfants, mes descendants peuvent annuler le Warf. Ça, c'est une condition importante, par exemple, chez les chiites, dans le rite chiite, qui n'existe pas, par exemple, chez les sunnites. Donc, c'est quelque chose d'intéressant d'étudier aussi. Et, Oui, oui. Et après, je vais expliquer la base de données, si vous voulez.
J'ai une question pour mais après,
si vous donnez au cycle de 3 minutes d'expliquer la base de données VARF.
Il y a aussi en grec le mot vakoufia.
Oui.
Qui doit être.
C'est nouveau ça. À l'époque ottomane.
C'est à l'époque ottomane, mais le. De,
oui, oui. Mais
oui, vakoufia.
Vakoufia.
Des propriétés, des monastères, etc.
Oui.
Voilà.
Est-ce que tu me permets que je vais juste. Dire encore une petite chose, s'il vous plaît.
Mais c'est-à-dire qu'après,
Je ne vais pas parler trop longtemps. Je vais juste parler du réseau, parce qu'on a évoqué sans dire ce mot-là. Réseau des bénéficiaires. Est-ce que je reviens à cette fondation qui a été créée par Hafiz Rana Mounali, 1880. Alors, il y avait pas mal de bénéficiaires qu'elle a nommés à son WAC, avec les pourcentages qui étaient indiqués. Mais c'est une question sociologique, et Moussa l'a soulevé aussi, en quelque sorte, pourquoi le choix d'un tel ou un tel? Alors, si on regarde tout simplement les bénéficiaires, ce sont, apparemment, elle n'a pas eu d'enfant, je ne sais pas, mais apparemment c'est ça, et j'ai interviewé ses descendants dans les années 80, mais j'ai interviewé ses descendants qui m'ont dit qu'elle était mariée à un certain âge, au-delà de pouvoir avoir des enfants, elle n'a pas eu d'enfants. Ou elle a eu des enfants qui sont morts. Mais à l'époque de la création de sa fondation, elle n'a pas eu. Alors, qui bénéficiait? Parce que c'était un WAC important avec beaucoup de revenus provenant des 15 boutiques au centre-ville de Damas. Alors, il y avait ses neveux, c'était les neveux de son mari. Alors, c'est-à-dire que le revenu allait rester dans la famille, dans la famille côté masculin. Et c'était à titre héréditaire, que souvent c'était ça, mais pas toujours. C'était à titre héréditaire. Donc, c'est-à-dire que les neveux de son mari allaient toucher des revenus, et ainsi que leurs enfants. Il y avait également là-dedans un oncle, c'était cité, un oncle qui résidait à Sidon, donc sur la côte syrien, libanais, mais que lui touchait des revenus, mais qui n'était pas à titre héréditaire. C'est important parce que, c'est-à-dire, elle faisait ce qu'elle voulait avec la distribution des revenus de cette fondation. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples, mais c'est important de savoir. Elle a aussi, juste encore deux choses, elle a également parmi les bénéficiaires, c'était aussi des mosquées, 5 mosquées dans la ville, mais il y avait aussi les 2 esclaves affranchis. Et ces esclaves affranchis, qui vivaient à Damas, mais affranchis, qui autrefois appartenaient à la famille, recevaient aussi une partie des revenus, mais ce n'était pas à titre héréditaire. C'était aux esclaves affranchis, mais ce n'était pas les enfants de leurs enfants, comme c'était pour les neveux. Voilà. OK, j'arrête là. Mais c'était pour évoquer tout à... Oui, oui, non, je ne dis plus rien. Mais c'est ça. Donc, c'était juste à propos du réseau. Il faut en penser à ça.
Juste une minute, présenter la base.
I have a question for Edda.
What difference is there between urban Tanzimat, sounds like urban cowboy, but well, between urban Tanzimat and rural Tanzimat?
First of all, Tanzimat is known in Ottoman history, is known as actually it refers to a period, in the 19th century basically, but I use Tanzimat in the very old...
No, the word urban, yes. That's what's interesting.
But I have to explain that first. As well. I use Tanzimat in the very ordinary sense as it appears in the sources basically, like in the meaning of, you know, organizing, ordering, reforming, as it is used in the sources, and if you ask what is the difference between urban Tanzimat and rural Tanzimat, well, in the urban area we usually, I talk about Tanzimat in terms of city planning activities in this period, but the same things actually, what happened in Istanbul happened in most of the provincial cities as well. But if in terms of property, if you look at rural I don't know, actually, to be honest, don't know much about it. I mean, how, you know, rural property relations change. And, of course, the land code was very important for that, but this doesn't really affect much much effect on Istanbul. And what was happening in Istanbul was reflecting to what was happening in the provinces, in the Taşra, basically. So I don't know how much difference. Sometimes, you know, I mean, Ottoman historians usually tend to think Istanbul in an isolated way, but this is also one of the things that I argue against in my research. So there is not, I mean, actually, it's not the other cities influenced by Istanbul, but the other way around. Sometimes Istanbul was influenced by the things happening in provincial cities, like what was happening in Salonika, for instance, or Bursa. Some of the pilot projects were carried out in other cities before Istanbul. And urban-rural relations, so I'm talking about the built environment. I mean, if we talk about agricultural land, that's a completely different thing, and I don't know much about it. So this is only what I can say, and we don't have much time anyway.
D'accord. Alors, concernant la base de données, on a créé une base de données, trois fichiers. Un qui concerne les documents d'Ouvar, vous voyez devant vous. En fait, c'est sous logiciel de FileMaker Pro, Middle East. On a créé cette base de données pour saisir les documents d'Ouvar, les lexiques d'Ouvar et aussi les bibliographies concernant les ouvrages d'Ouvar. Comme vous voyez devant vous ici, la partie à gauche, c'est le document même en arabe. Vous voyez, Tahbis ala Zokur Dun al Enos. C'est un varf pour les fils, pas les filles. Donc, à droite, on a tiré les détails du document comme Voref, comme Maroufon Alay, tous les noms, la date, les bénéficiaires, tout. Donc, vous voyez devant vous, c'est la page principale de la base concernant les documents d'Ouvar. Ici, vous voyez d'autres documents d'Ouvar concernant. C'est ça. Moi, j'ai pris quelques images, photos de la base de données. Deuxième fichier, c'est fichier sur bibliographie. Vous voyez ici le nom des ouvrages concernant l'OVAF, la date et le sujet. Si on clique sur chaque document, ça va ouvrir, ça va afficher les détails. Par exemple, vous voyez ici, même si on a le Al-Warf al-Alam al-Islami, par exemple, Mohamed Arnaoud, c'est l'un des ouvrages concernant l'OVAF. Ça, c'est bibliographie. Troisième fichier concerne lexique d'Ouvar en quatre langues, l'arabe, français, perse et l'anglais, distingué par en fait les couleurs. Vert c'est français, vert c'est anglais, jaune c'est français, bleu perse et rouge clair, c'est l'arabe. Donc, vous voyez, en quatre langues, on va, ici aussi, on a désigné l'offer, la rite, par exemple, c'est Hanafite, Malikit, Shafiite. À côté, on a mis le sujet en commun, et ensuite, vous voyez, par exemple, Kadek. Kadek, qu'il a expliqué, Randi, où vous voyez, par exemple, Mutawalli, ou Shohud, témoin, vous voyez. Lexique d'Ouvar aussi nous aide à bien comprendre les différentes expressions concernant l'Ouvar. Donc, on a trois fichiers dans cette base. Un qui concerne lexique, deuxième qui concerne bibliographie, troisième qui concerne les documents d'Ouvar. Et aussi, on a mis l'original et le scan de documents aussi en pièces jointes pour chaque page. On est en départ, en début de ce projet. J'espère que les collègues qui sont présents ici.
Il faut prendre maintenant.
Voilà. Donc.
Merci.
Je vous remercie bien de m'avoir écouté et merci de votre attention.
Merci.